هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
Vous êtes libre. Votre demeure, c'est votre royaume. C'est vous qui avez le visa. Voyez-vous ? Donc, le ministère des Affaires étrangères, il est chez vous à l'intérieur. C'est vous qui délivrez les visas, les permissions. Ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Un poète disait justement, il disait, la beauté, l'élégance n'est pas, ne se manifeste pas par les habits que l'on porte. Mais par contre l'élégance, c'est l'élégance de la science, de la connaissance et du comportement. Ne te mets pas en face lorsque tu demandes l'autorisation. Si tu demandes la permission d'entrer, ne te mets pas face à la porte. Ne mets-toi sur le côté, à droite ou bien à gauche.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مشايخ يسار، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, inshallah, je demanderai juste à tous mes frères et sœurs d'éteindre les GSM, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Comme ça, inshallah, vous serez concentrés dans le cours, inshallah. Le thème d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le tafsir. C'est un thème, bien sûr, qui relève de l'ordre de ce que l'on appelle l'éthique sociale, l'adab l'ijtima'iyya. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle adab l'isti'zan. Adab l'isti'zan. Donc, les bienséances, lorsqu'on demande la permission d'entrer dans une demeure. Alors, quelles sont les raisons qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à choisir ce sujet? En réalité, j'ai deux raisons. Il y a ici deux raisons qui m'ont poussé à choisir ce sujet, qui certes, est très important. La première raison, c'est qu'il est triste de constater que beaucoup de musulmans et musulmanes ont délaissé ces bienséances, hadhihi al-adab. Ils ne savent pas comment demander l'autorisation d'entrer dans une demeure. Ils ne connaissent pas le respect, hurmatul buyut, le respect et l'humilité des demeures. Et c'est pour cela qu'il est important, bien sûr, de rappeler à la lumière des versets qu'on va citer, inshallah, dans Surat al-Nur, de rappeler ces bienséances, hadhihi al-adab, al-tadhkir, afin que nous éduquions, al-tarbiya, qu'il y ait une éducation sur ces bienséances et que nous apprenions, bien sûr, cette éthique, ou bien ce qu'on appelle makarim al-akhlaq, donc les bonnes mœurs à ce sujet. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Qu'est-ce qu'il dit? Parlant de ce verset, ou des versets qu'on va citer dans Sourate An-Nur, il dit « Lam ya'mal biha kathirun minan nas ». Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas en pratique ce qu'il y a dans ces versets. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « Wa inni la amuru jariyati an tasta'zina 'alayya ». Il dit « Quant à moi, j'ordonne à ma servante, à mon esclave, d'avant d'entrer chez moi, de demander d'abord la permission et l'autorisation. » Et la deuxième raison, mes chers frères et sœurs, c'est que Al-Qur'an, en tant que message, Karisala, Al-Qur'an, bien sûr, a dans de nombreuses sourates, entre autres Sourate An-Nur, ainsi que Sourate Al-Ahzab, ainsi que Sourate Al-Hujurat, ces trois sourates en particulier, nous trouvons dans ces trois sourates de nombreux enseignements quant à ce qu'on appelle donc l'éthique sociale, Al-Adab Al-Ijtimaiya. Cette éthique qui donne bien sûr la bonne facette d'une société civilisée, Mujtama' Mutahaddir. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, que Al-Adab, le bon comportement, a une place énorme dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Ahmed, il dit « Inna sahib al-khuluq liyablugh bi khuluqih darajat as-sa'im al-qa'im » Celui qui se dote d'un bon comportement, et bien par son bon comportement, il acquiert le stade de celui qui vient sur faire qiyam al-layl, qui prie la nuit, ou bien qui jeûne d'une façon donc régulière. Un poète disait justement, il disait « Laisse al-jamalu bi athwab tuzayyinuna » بل الجمال جمال العلم والأدب ليس الجمال بأثواب تزيننا. La beauté, l'élégance ne se manifeste pas par les habits que l'on porte. بل الجمال جمال العلم والأدب. Il dit par contre l'élégance, c'est l'élégance de la science, de la connaissance et du comportement, l'adab. Ça c'est la vraie élégance. C'est ainsi que le mizan, la balance du shara, a établi comme quoi ce n'est pas les façades ou l'apparence des gens qui comptent, mais ce sont leurs réactions, leurs comportements, leur tempérament et leur foi, bien sûr. Quant au verset, qui bien sûr constitue la base de notre thème pour aujourd'hui, inshallah, ce sont les deux versets qui se trouvent dans Sourate An-Nur, versets 27-28. Dans Sourate An-Nur, la Sourate la Lumière, versets 27-28. Alors que disent ces deux versets? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, « Ya ayyuha alladhina amanu » لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Il nous dit, ô vous les croyants, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas les vôtres. حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. Jusqu'à ce que vous demandez la permission d'entrer et qu'ensuite vous fassiez le salam, السلام, وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, et que vous saluez les occupants de cette demeure. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset, il dit فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Et si vous ne trouvez personne dans cette demeure, ou que personne ne vous répond, فَلَا تَدْخُلُوهَا, n'entrez pas, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, jusqu'à ce que vous en ayez la permission. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Et si on vous demande, on vous dit, après que vous demandez la permission d'entrer, on vous dit, retournez d'où vous venez, revenez à un autre moment, eh bien, Allah Azza wa Jalla dans son verset nous dit, وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, et si on vous dit de retourner, eh bien, retournez, huwa azka lakum, c'est beaucoup plus pur pour vous. Wallahu bima ta'maluna 'alim. Et Allah, certes, est omniscient quant à ce que vous faites. Donc, dans ces deux versets, Allah Azza wa Jalla nous relate ce comportement que nous devons avoir lorsque nous nous présentons à la demeure de quelqu'un. Comment se passe ce qu'on appelle l'isti'zan, la demande de permission? Et il faut savoir que dans le passé, il n'y avait pas de sonnette, aujourd'hui il y a des sonnettes. Dans le passé, il n'y avait pas de sonnette. Les gens frappaient à la porte, ou encore appelaient, lorsque les demeures avaient des rideaux, il n'y avait pas de porte. Dans certaines demeures, il y avait des rideaux, donc les gens demandaient, les personnes, les visiteurs, donc appelaient et interpellaient les habitants, les occupants de cette demeure, afin de savoir est-ce qu'ils peuvent entrer ou non. Très bien. Alors la sourate An-Nur, Cette sourate est une sourate médinoise, mais l'ittifaq. Il y a unanimité chez les savants, comme quoi cette sourate est médinoise, madaniya, bil-ijma. Elle englobe 64 versets. Il y a dans la sourate Nour 64 versets. Et les principaux thèmes, al-mawdu'at al-asasiyya, les principaux thèmes que sourate Nour a traités sont les suivants. Nous avons ce qu'on appelle les peines légales, al-hudud, telles que la peine de l'adultère, zina. Également ce qu'on appelle la peine de al-qadf. Al-qadf, c'est le fait d'accuser quelqu'un sans preuve. Également ce qu'on appelle al-mula'ana, lorsqu'un homme accuse son épouse d'adultère. Il n'a pas de preuve, il n'a que des indices. Et que l'épouse réfute cela. Alors il doit faire ce qu'on appelle al-mula'ana, c'est-à-dire que devant un juge, ils doivent jurer quatre fois. Et la cinquième fois, ils doivent maudire l'un des menteurs ou l'un des deux menteurs. Et après ça, le juge les sépare. C'est un divorce définitif. Talaqun da'im. C'est un divorce définitif. Voyez-vous ? Également, parmi les thèmes traités par Surat al-Nur, le récit de ce qu'on appelle Qissatul Ifk, le récit de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha. Vous connaissez ce récit, ou lors d'un voyage ou d'une expédition, donc Aïcha radiallahu anha a tardé. Elle cherchait certaines de ses affaires, elle a tardé à rejoindre la caravane, et la caravane a pensé que Aïcha était déjà montée dans sa monture, donc c'était une sorte de, en arabe on appelle ça Haoudaj, donc des, comment on appelle ça, cette expression le permet, des sortes de boîtes ou de niches fermées qu'on met sur les chameaux où les femmes donc étaient résidées à l'intérieur. Et donc Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il est venu en retard bien sûr, donc la caravane était déjà partie, et c'est là qu'un compagnon qui lui était venu en retard l'a vu, il l'a porté sur sa monture et l'a ramené à Médine. Alors lorsqu'il l'a ramené à Médine, bien sûr les hypocrites, al-munafiqoun, ou al-munafiquoun fi d-dark al-asfal min an-nar, les hypocrites en ont profité. Ils ont fait répandre dans les rues de Médine que Aïcha radiallahu anha, ou l'ayadu billah, entretient une liaison avec un compagnon. C'est un scandale. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'approchait plus sa famille pendant près d'un mois et il a gardé le silence, car c'était son honneur était touché en tant que prophète, en tant que messager, jusqu'à ce que des versets soient descendus dans Surat al-Nur même pour justement innocenter et disculper Aïcha de cette accusation qui est gravissime. Et de là les savants ont tiré, les sunnites ont tiré que quiconque accuse Aïcha radiallahu anha de quoi que ce soit, yakfur, il devient mécréant. Parce que Aïcha radiallahu anha a été purifiée, tohirat, min fawqi sab'i samawat. Elle a été purifiée d'au-dessus de sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Nur, l'a purifiée et l'a innocentée des accusations qu'on lui a portées. Donc, accuser Aïcha aujourd'hui, cela revient à démentir le jugement divin qui la considère bien sûr comme étant une femme pieuse et honorable. Également, parmi les thèmes traités par Surat al-Nur, nous avons ce qu'on appelle Ahkam al-Buyut, donc les préceptes et les règles juridiques liées aux demeures, aux maisons. Voyez-vous ? Donc aux demeures. Ça c'est donc un petit portrait de Surat al-Nur, bien entendu. Alors maintenant, quelles sont les sagesses et le hikam ? Quelles sont les sagesses qu'il y a dans ces versets qui parlent de la demande d'autorisation, de permission pour entrer dans les demeures? Pourquoi? Pourquoi ce verset? Al-Hikam, quelles sont les sagesses? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vise par cela? Avant tout, la première chose, la demeure, al-Bayt, c'est la zone privée de son propriétaire. C'est là où il se repose. C'est là où il se trouve en intimité avec sa famille. C'est là où il s'occupe de ses affaires personnelles. Alors c'est normal qu'il n'accepterait pas que n'importe qui entre chez lui à n'importe quel moment. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, mes chers frères et sœurs, c'est que la demeure, al-bayt, il-bayt hurma, la maison, a un caractère sacré, a ce qu'on appelle une sorte d'immunité. Vous savez que les diplomates et les parlementaires ont ce qu'on appelle une sorte d'immunité. Donc on ne peut pas entrer dans leur demeure, on ne peut pas les arrêter. Eh bien, il en est de même pour la demeure. Elle a un caractère sacré, on ne peut pas rentrer comme on veut dans ces maisons. Voyez-vous? Également, parmi les hikam et les sagesses que l'on retrouve dans ces versets concernant les demeures, al-buyut, c'est que la maison, la demeure en général, la personne préserve en son sein ses biens, ses secrets, préserve ses choses intimes. Et il est tout à fait naturel qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre en prenne connaissance. Car bien sûr, c'est sa zone gardée et privée. Le cinquième point, à partir de ces versets que nous avons cités, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Fa'in lam tajidu fiha ahadan, fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, wa in qila lakum irji'u farji'u, huwa azka lakum, wallahu bima ta'maluna 'alim. » Dans ces versets, on tire un jugement juridique, hukm shar'i, un jugement jurisprudentiel, que il est interdit d'entrer dans les demeures sans l'autorisation de ses propriétaires. Haram, la yajouz. Et Allah l'a interdit dans ce verset. Il dit, n'entrez pas. C'est un ordre nahy, c'est un ordre qui implique une interdiction. N'entrez pas dans ces demeures. Donc ça, c'est bien sûr, les savants à ce sujet sont d'accord là-dessus. Et l'imam Tabari, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, al-isti'zan wajibul ala nasi ajma'in in ihtalamu. Il dit que al-isti'zan, la demande d'autorisation, est obligatoire pour tout le monde, lorsque les gens, bien sûr, ont atteint la puberté. Et là, ça nous pousse, bien sûr, à parler du sixième point. Ces bienséances, ces règles de demande d'autorisation, de permission d'entrer dans les demeures, s'adressent à qui? En réalité, mes chers frères et sœurs, ces versets s'adressent à trois catégories de personnes. Trois catégories. Thalathatu asnaf. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les esclaves, ou, dans le jargon contemporain, ce qu'on appelle les servants et les maîtres de maison. Ce sont eux qui côtoient souvent, donc les membres de, ou les propriétaires, donc ces gens-là. Al-abd ou bien al-khadim. L'esclave ou le servant ou le maître de maison. Deuxième catégorie, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et la troisième catégorie, ceux qui ont dépassé l'âge de la puberté. Quant aux deux premières catégories, qui sont les deux premières catégories? Et qui d'autre? Voilà, l'esclave ou le servant et ceux qui n'ont pas atteint la puberté, les enfants qui ne sont pas à l'âge de la puberté. Ces deux catégories, il y a des versets qui sont descendus les concernant. Dans Sourate An-Nour également, verset 58. Dans Sourate An-Nour, verset 58, où Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, liyasta'zinakum alladhina malakat aymanukum » Ou vous les croyants, que vous demandent l'autorisation les esclaves que vous possédez. « Walladhina lam yablughu al-huluma minkum » Thalatha marrat. Et également ceux qui n'ont pas encore atteint la puberté parmi vous. Trois fois. Donc ici le verset indique et souligne qu'il y a trois moments où ces deux catégories, les esclaves et servants, ainsi que, qui d'autre, ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté à l'intérieur de la demeure, il y a trois moments où ils doivent demander l'autorisation avant d'entrer. Quels sont ces trois moments, comme le dit le verset? Min qabli salat al-fajr, avant la prière de l'aube. Parce que les gens dorment encore. Peut-être qu'ils sont dévêtus. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ Et lorsque vous retirez vos vêtements pour faire ce qu'on appelle la sieste. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ Et après la prière de l'Isha. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ Trois moments qui sont des moments intimes pour vous. Voilà que le Coran nous indique qu'il y a trois moments intimes à l'intérieur des demeures avant la prière de l'aube, قبل الفجر, au moment de la sieste. Al-Zahira, et également après la prière de l'Isha, car les gens vont en général se reposer. Dans ces trois moments-là, ces enfants en bas âge, qui n'ont pas atteint la puberté, ainsi que les servants et les esclaves, ne peuvent pas entrer dans la chambre sans demander, bien sûr, al-Ibn, l'autorisation. Et à la suite de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ » فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Par contre, si ces enfants atteignent l'âge de la puberté, eh bien ici, ils doivent demander autorisation en tout moment. Pas seulement ces trois moments. En tout moment, ils doivent demander l'autorisation d'entrer. Ça, c'est verset 59. Verset 59, bien sûr, dans Sourate An-Nour. Alors, comment se passe? Quelle est la description de cette demande d'autorisation? L'un d'entre vous se présente chez quelqu'un. Il vient nous rendre visite. Comment doit-il faire? Doit-il appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'il y ait un sel qui se mette à se dégager de la sonnette? Ou bien doit-il casser la porte et fracturer la porte et ses fissures afin que les gens sachent que c'est lui qui est arrivé? Ou bien doit-il klaxonner toute la nuit? Que doit-il faire? Très bien. En réalité, l'islam, nous a enseigné ce comportement civique. Al-Suluk al-Hadari, qui malheureusement nous manque énormément de nos jours. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les gens, lorsqu'ils viennent sonner à la porte, eh bien son doigt ne s'arrête pas. Il est toujours sur la sonnette. Lorsqu'il vient frapper, il frappe tellement fort que tout le quartier l'entend. Ou alors il se met à hurler dans la rue au milieu de la nuit, ou bien au moment de la sieste. Tout ça pour que l'occupant de la demeure ou le propriétaire de la demeure puisse l'entendre. Ou encore, ce qui est à la mode maintenant, c'est les voitures, les klaxons, fainéants, trop fainéants pour descendre. Hein, on est à l'époque, ce qu'on appelle l'époque de la vitesse, as-sur'a, on n'a pas le temps. Donc au lieu de descendre, sonner, préfère klaxonner, déroger tout le quartier et klaxonner. Et le drame dans tout ça, c'est que lorsque vous ouvrez vos fenêtres et que vous regardez qui klaxonne, eh bien c'est qui? C'est Mohamed, c'est Abdullah, c'est Mukhtar, c'est Fatima, c'est Aïcha, c'est Safiya. Voilà. Ce sont nos frères et sœurs. Rare vous allez voir des Européens qui font ça. Alors que le bon comportement, le khuluq al-hasan, il est inscrit dans notre foi. Mais qu'est-ce qu'on en a fait exactement? C'est là la question. Alors bien sûr, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est dire assalamu alaikum. Ça, bien sûr, ça concerne les demeures, je rappelle, les demeures où il n'y a pas de sonnette, hein, où il n'y a pas de, comment dire, ou alors il n'y a pas de porte, tout simplement. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, c'est de dire assalamu alaikum, la première chose. Voyez-vous? À ce sujet, nous avons un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab Al-Mufrad et que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, donc hadith sahih, où un homme est venu demander l'autorisation pour entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Alijou, il dit: puis-je entrer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'un de ses servants, lui a dit: ukhruj ilayh fa'allimhu, sors et apprends-lui qu'il dise avant d'entrer assalamu alaikum à Atroul. Assalamu alaikum, puis-je entrer? Et cet homme qui est venu demander l'autorisation d'entrer, lorsqu'il a entendu la remarque prophétique, il l'a fait de la sorte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis d'entrer donc dans sa demeure. Donc on voit ici que assalamu alaikum, c'est la première chose par laquelle on commence. Donc cela veut dire que si maintenant vous sonnez à une porte et qu'il y a un parlophone par exemple, eh bien avant de dire est-ce que Mukhtar est là, est-ce qu'un tel est là, tu commences d'abord par assalamu alaikum et ensuite tu poses ta question. Voyez-vous? Très bien. Mais j'ai une question à vous poser ici. On voit que le hadith nous parle de commencer par salam. Juste ou non? Alors comment concilier cela avec le verset? Le verset ne commence pas par salam. Le verset commence par demander l'autorisation, ensuite, ou plutôt, et saluer. Qui se rappelle des versets? يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Oh vous les croyants, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas les vôtres, jusqu'à ce que vous demandiez la permission et que vous saluez les occupants. Il y a un problème là. Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, salam. Le prophète nous apprend de commencer par le salam. Et le verset nous parle de l'inverse. Alors ici il y a un problème. Là je m'en sors plus. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment concilier à ce moment-là? Comment faire? Quelle est la réponse à ça? Deux fois. Une seule, c'est pas intéressant de dire ça un coup deux fois, mais une fois c'est suffisant, Inch'Allah. Qui a une réponse à ça? C'était une tentative de notre frère. mais on veut une autre tentative. Qui a une réponse à ça? Ah, personne parmi vous a une réponse à ça? Naam? La, quelle aïe moujmala? Non, l'aïe moufassala ici. Ahsan, très bien. Notre frère a répondu à la question. Le cher Mohamed Amin Shankit, rahimahullah, dans son tafsir Adwa al-Bayan, nous répond à cette question. Dans son livre Adwa al-Bayan, il nous répond à cette question. Il dit, al-waw la tufidu tartib. Il dit, le waw ici, le e, qui est dans la particule e ici, n'indique pas un ordre établi. Ça ne veut pas dire, tu demandes l'autorisation, ensuite tu fais ceci. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ce qu'on appelle mutlaqut tashrik. C'est juste un accompagnement, pas plus. Sans observer l'ordre. Et nous avons bien sûr un équivalent de ça, ou quelque chose de similaire, dans surat Al-Imran. Dans surat Al-Imran, verset 43, où Allah subhanahu wa ta'ala, via bien sûr l'ange Jibril, interpelle Maryam, alayhi salam, en lui disant, « Ya Maryamu, uqnuti li rabbiki, wasjudi warka'im arraki'i. » Ô Maryam, uqnuti li rabbiki, donc, lève-toi pour prier pour ton Seigneur, wasjudi, prosterne-toi, وَرْكَعِمْ عَرْكَعِمْ et fait le recours avec ceux qui font le recours. Alors que vous savez très bien que dans la prière, le recours passe avant ce soujoud. Voyez-vous? Donc, la réponse à ça, c'est que ici, la particule « et » dans ce verset, « wa » indique bien sûr, n'indique pas un ordre, tartib, mais veut dire tout simplement un accompagnement, ce qu'on appelle « et tashrik », pas plus. Très bien. Alors, combien de fois on demande l'autorisation? 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois? Combien? Et 3 fois, non. Ça c'est en théorie, 3 fois. Mais qu'est-ce dans la pratique? Hein, c'est autre chose. Dans la pratique, on sonne. Hein, et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que malheureusement, quelquefois, on connaît justement, nous sommes conscients qu'on ne peut faire ça que 3 fois. Et malgré cela, on se laisse aller. Mais c'est pas grave. Allez, on continue encore. Bismillah. Donc il a sonné 3 fois, puis il arrête. L'âme qui veut faire, soi-disant, l'adab, 3 fois, il arrête, prend une pause, et puis il revient à la charge, 3 fois encore. Et bref, compte tant que tu veux, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Pas du tout. 3 fois et pas plus. Si on te répond, alhamdoulilah, si on ne te répond pas, rentre chez toi. C'est plus simple que ça. Si on ne te répond pas, rentre chez toi. Donc, combien de fois on va demander l'autorisation? Combien de fois? 3 fois, je m'imagine. Très bien. Là, nous avons un hadith également, rapporté par le Bukhari dans l'Adab Mufrad, hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec quelques compagnons, et il est parti rendre visite à un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Ubada. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Assalamu alaykum la première fois. On ne lui a pas répondu. Ensuite, il a dit Assalamu alaykum deuxième fois. On ne lui a pas répondu. Il a dit « Assalamu alaikum » troisième fois. On ne lui a pas répondu, qu'est-ce qu'il a dit ?« Qadayna ma'alayna » Il a dit « On a acquitté ce qu'on devait faire. J'ai fait ce que je devais faire. » Ensuite, il est reparti. Au moment où il est reparti, Sa'd ibn Ubada est sorti en courant après le prophète. Il lui dit « Viens, tu peux rentrer. » Et c'est là qu'il rentre. Donc le prophète n'est pas resté poireauté avec ses compagnons devant la porte, à attendre absolument qu'il ouvre, ou dire « Non, il est là, la voiture est là, donc je vais attendre. » Pas du tout. Donc, comme l'indique le hadith suivant, إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. Si l'un d'entre vous demande l'autorisation 3 fois et qu'on ne lui répond pas, eh bien il doit repartir. Tu sonnes 3 fois ou tu frappes 3 fois à la porte et puis tu repars. Pas commencer à dire tiens, il n'a pas voulu m'ouvrir. La voiture est devant la porte. Elle est là, je ne vais pas m'ouvrir. Ou alors j'ai vu le rideau bouger. Hein? J'ai vu le rideau bouger. C'est quoi ce comportement? Il ne veut pas m'ouvrir? Non. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il a même le droit de t'ouvrir la fenêtre, de regarder par la fenêtre et dire, j'ai pas envie de te voir. Tout à fait, non. Il est de son droit. Et il y a un récit justement qui s'est passé ici à Bruxelles. C'est qu'un frère a été rendre visite à un cheikh, ici à Bruxelles. Il est venu la première fois, donc le cheikh n'était pas là. Il est venu une deuxième fois le lendemain. On lui a dit, reviens demain, il sera là. Il est revenu le lendemain. Et lorsqu'il a donc il a sonné, donc l'un des enfants du cheikh a répondu, et voilà, je voudrais voir ton père. Alors on lui a répondu, le cheikh est occupé, il ne peut pas te recevoir. Alors qu'est-ce qu'il avait ce frère, tout simplement, fourmi magie bien sûr, il a mis une croix sur le nom de ce frère dans son agenda. C'est fini. Ce gars-là, c'est terminé, il est grillé pour moi. Je ne l'appelle plus, je ne lui téléphone plus, je ne lui pose plus de questions, c'est terminé. C'est quoi ce comportement, mes chers frères et sœurs? Il est libre, il fait ce qu'il veut, s'il n'a pas envie de te répondre, ne te réponds pas. Regardez le prophète, celui-ci, il a voulu entrer, puis il a demandé trois fois l'autorisation, alors que le compagnon Sa'd ibn Ubada est là, est présent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, on ne me répond pas, je pars. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne est occupée, il se peut qu'elle se repose, il se peut qu'elle a un travail à faire. Il y a mille et une raisons qu'on doit avancer. Et pas faire comme certains, comme je le disais, ils regardent donc le long de la rue, tiens, ça va toujours, sa Mercedes, elle est là, donc c'est là, donc j'attends. Non, il t'a pas répondu tout en bas, pas commencé à attendre donc de midi à 14h. Très bien. Bien sûr, les savants tirent de ce hadith, et d'autres hadiths qu'on peut citer, c'est que la personne, bien sûr, donc ne demande trois fois l'autorisation, et ici il y a un hadith aussi de Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdillah, qui avait une dette de son père, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé trois fois à la porte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, men hada, qui est là? Alors il a répondu, c'est moi, ana. Bien sûr, le prophète n'a pas apprécié cette expression. Il est sorti en lui disant, ana, ana, ana. Moi, moi, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en disant ça, donc un peu fâché. Donc le compagnon dit, ka'annahu kariha dhalik. C'est comme s'il avait, il désapprouvait ce genre de réaction, et c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est ce que nous allons voir plus tard, comme quoi lorsqu'on vous dit, qui êtes-vous? Eh bien, il faut répondre par son prénom ou son surnom, afin qu'on sache qui vous êtes exactement. Ça, c'est donc ce qui concerne, barakallahu fikum, ce qui concerne cette demande d'autorisation qui est au nombre de combien? 5, 6, 3, impeccable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le relatait dans certaines narrations que les compagnons frappaient à la porte du prophète avec leurs ongles. Voyez-vous? Avec leurs ongles, ils frappaient sur la porte. Et Ibn Hajar dit qu'ils font ça tellement qu'ils n'ont pas respect pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour ne pas le déranger. Donc il grinçonnait sur la porte, vraiment d'une façon douce, pour ne pas le déranger, ne pas le frayer en quelque sorte, tout ça m'avait la dette. Alors qu'aujourd'hui, je vous dis pas. Et j'ai aussi un autre récit, si vous me permettez. On relate justement que en Arabie, dans le désert à la campagne, donc il y avait justement un frère, donc un homme de science, qui était chez lui en train de travailler, de lire, et un bédouin miskin du village est venu frapper à sa porte. C'est des portes en fer, en fait. Oui, c'est des portes en fer. Il a frappé plusieurs fois, dav, 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 il répond pas. Et il voit la lumière ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, le frère, il entend un silence. Il n'y a plus de réaction. C'est ça, c'est qu'il est parti. Et puis il entend, boum, contre la porte. Lorsqu'il ouvre la porte, il trouve qu'elle est un peu défoncée. Avec un pavé par terre. Et alors il dit, mais c'est qu'est-ce qui te prend, toi? Il dit, pourquoi tu veux pas m'ouvrir la porte? Il dit, fallait que je prenne la pierre, que je la jette contre la porte, pour que tu m'entendes. C'est quoi ce comportement? Pour regarder l'ignorance, elle gêne. Ou qu'il est tard, bien, le manque d'éducation, jusqu'où il conduit donc nos frères et sœurs. Bien sûr, lorsqu'on dit frapper à la porte, comme vous l'avez remarqué maintenant, on frappe bien sûr d'une façon modéré. Et les savants disent, Ahlul-Ilm, ils disent que si maintenant le fait de frapper doucement, c'est pas suffisant pour que la personne puisse entendre, on peut frapper un peu plus fort à condition, bien sûr, de ne pas exagérer. Et il y avait un savant justement, un savant du hadith, qui un jour, quelqu'un a vu frapper à sa porte, il a frappé tellement fort qu'il a refusé de lui répondre. Il dit, moi je réponds pas à des gens comme ça. C'est des gens qui sont mal élevés, mal éduqués, comme nous le dit bien sûr, donc les gens de science. Il en est de même pour la sonnette, al-jaras, al-kahraba'i, la sonnette, c'est le même principe. Tu sonnes trois fois, et puis tu attends. Si on te répond, alhamdoulilah, si on ne te répond pas, c'est en vain. N'attends pas. Ne reviens pas à la charge une deuxième fois, sous prétexte que tu vas encore refaire trois fois. On ne te répond pas, c'est en vain. Alors ici, Il y a une remarque à faire par rapport à ça. Certains disent qu'on peut répéter une deuxième fois le fait de frapper à la porte, de sonner à la porte en se disant peut-être que la personne n'a pas entendu. Voyez-vous ? Mais en réalité, Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, nous précise que cela est contraire à la sunna. C'est complètement contraire. Parce que on n'a pas dans des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vas-y frappe trois fois et si tu sens qu'il ne t'entend pas, recommence une deuxième fois. Non. Trois fois, qu'ils aient entendu ou non, on frappe trois fois, s'il n'y a pas de réponse, on s'en va. Al-isti'zanu thalathan fa in lam yu'zan lak farji'. Trois fois tu demandes l'autorisation, si on ne te répond pas, tu t'en vas. Tu ne restes pas à attendre donc devant la porte. Le point suivant, lorsque tu frappes à la porte ou que tu sonnes et qu'on te répond, qu'on te dit qui es-tu, que faut-il répondre? Peut-on répondre Anna, c'est moi? Il faut dire son prénom, son surnom, le kunya, afin que la personne qui t'entende derrière la porte ou derrière le rideau ou encore au parlophone sache qui tu es. Pas dire c'est moi et pas à la ligne. Parce qu'ici, les savants disent que la raison pour laquelle le prophète sallam n'a pas apprécié la réponse de Jabir lorsque Jabir disait c'est moi, ils disent que premièrement, ce n'est pas explicite, on ne sait pas c'est qui. Deuxièmement, c'est une sorte d'orgueil, kibr. C'est comme si tu disais par là, moi j'ai pas besoin de dire qui je suis. C'est moi, point à la ligne. Que tu le veux ou que tu le veux pas, c'est moi. Et parmi les récits assez, assez anecdotiques, c'est qu'un savant dénommé Shu'ba, Ibn Hajjaj al-Wasiti, qui est un savant du hadith, un homme est venu frapper à sa porte. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond, il dit, qui est-ce? Men hada? La personne a répondu, Anna, c'est moi. Il dit, désolé, je m'excuse, mais je n'ai pas d'ami qui s'appelle Anna. Donc je n'ai pas d'ami qui s'appelle moi. Un autre aussi est venu frapper à la porte d'un autre en disant, il a dit, qui es-tu? Il a dit, ha anada, me voici. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour un peu le taquiner? Il a fait, eh ben c'est bon, mon voici, tu peux entrer, c'est le bienvenu. Donc, au sein de la demeure. Et depuis lors, on l'a surnommé « Me voici ». Depuis lors, cet homme a été surnommé « Me voici » à cause de ça. Donc, bien sûr, on précise, on explicite donc qui on est. Où se place la personne qui demande la permission d'entrer? D'après vous, où elle se place? Parce qu'elle vient sonner ou frapper à la porte, elle se place où? Sur le côté gauche ou droit? Non, sur le... C'est pas une question, hein. Sur le côté gauche ou sur le côté droit, l'un des deux. Voyez-vous? Et ne pas se mettre en face de la porte. Faut pas se mettre en face de la porte. Tu sonnes, puis tu te mets sur le côté. Tu frappes à la porte, tu te mets sur le côté. Tu interpelles, si c'est un rideau par exemple, ensuite tu te mets sur le côté. À ce sujet, il est relaté par l'imam Ahmed ainsi qu'Al-Bukhari, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présentait auprès de la porte de certaines personnes, eh bien, donc il ne se met pas face au tilqa al-bab, il ne se met pas face à la porte. Mais il se mettait à droite ou bien à gauche, le temps de voir si la personne bien sûr va répondre. Et il a fait la remarque à un compagnon donc, qui s'appelle Saad ibn Ubadah, qu'on a vu là tout à l'heure, que le prophète avait visité et qui n'avait pas répondu. Il a fait la remarque à ce compagnon en disant, la tastaqbil bab. Ne te mets pas en face lorsque tu demandes l'autorisation, il est sta'azanta fala tastaqbil bab. Si tu demandes la permission d'entrer, ne te mets pas face à la porte. Ne mets-toi sur le côté, à droite ou bien à gauche. Tout ça bien sûr parce que les demeures ont un caractère sacré et pour pas qu'ils te regardent en même temps, ils essaient de voir ce qu'il y a à travers ou au travers de ta demeure. Non, un peu de respect et tu attends que la personne te réponde. Donc bien entendu. Frères et sœurs, il est important de souligner que à l'istivan, la demande d'autorisation se fait, de permission d'entrée se fait. Que la porte soit fermée ou bien où elle est ouverte, l'un des deux. Que la porte soit fermée ou ouverte, c'est pareil. Pas qu'on fasse certains dire à la porte ouverte, je vais rentrer, bismillah. Je suis le bienvenu. Il a laissé pour moi ouverte. Pas du tout. Que la porte est ouverte ou fermée, tu dois demander l'autorisation via sonnette ou frapper la porte, donc le temps qu'on te réponde. Alors le point suivant, la personne à qui on ne répond pas. On a déjà dit ça tout à l'heure. La personne à qui on ne répond pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va? Ou bien elle attend pas, elle ne peut pas plutôt qu'elle revient? Non, elle s'en va tout simplement. Elle s'en va. Et la raison pour laquelle on ne lui a pas répondu, soit tout simplement que le propriétaire ou l'occupant de la demeure est absent, Ou alors tout simplement il est là mais il n'a pas envie de répondre pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles et particulières. Et c'est votre droit, mes chers frères et sœurs, de ne pas répondre à quelqu'un. Ce n'est pas d'hypocrisie ni un péché. Si vous n'avez pas envie de répondre à quelqu'un, c'est votre droit. Il se peut que vous êtes occupé, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de méditer un peu, de réfléchir. Vous êtes libre. Votre demeure, c'est votre royaume. C'est vous qui avez le visa. Voyez-vous ? Donc, le ministère des Affaires étrangères, il est chez vous à l'intérieur. C'est vous qui délivrez les visas, les permissions. C'est pas celui qui est à l'extérieur. Le verset, bien sûr, nous le dit, et je vous l'ai cité là tout à l'heure, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surah An-Nur, verset 28, « فَإِلَّا تَجْدُفِيَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ » Et si vous ne trouvez personne dans ces demeures, n'y entrez pas jusqu'à ce qu'on vous donne l'autorisation. Et la suite du verset, « وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رِجِعُوا فَرْجِعُوا » Et si on vous dit « retournez », il se peut que la personne vous dise « je ne peux pas te recevoir, reviens l'autre jour ». وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رِجِعُوا ارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ Et si on vous dit retournez, retournez, c'est bien plus pur pour vous et ne restez pas bien sûr morfondés donc devant la demeure de la porte de la demeure. Également, mes soeurs, frères et sœurs, parmi les bienséances qu'il y a dans cette demande de permission d'entrée, ne pas regarder ou ne pas observer ce qu'il y a à l'intérieur de la demeure sans leur autorisation. Alors quelquefois, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Un peu de caricature pour que vous compreniez. La fenêtre est ouverte. Alors la personne passe et commence à regarder. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un meuble, ils ont des armoires, il y a une télévision, il y a des salons. Ceci, il y a des chaises, il y a une table. Ou alors le plus dramatique, le plus vicieux, ou l'ayyadu billah, c'est celui qui, a'oudu billah min ash-shaytan rajim, dans sa demeure, dans sa maison, à l'étage, qu'est-ce qu'on appelle les jumelles, hein ? Donc, il y a l'autre jumelle qui regarde de loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'autre côté, qui entre, qui sort, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ça, c'est pas permis, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est interdit. Et il est relaté, bien sûr, qu'un homme a regardé, comme il l'aura rapporté par le Bukhari Muslim, un homme de sa demeure, de son appartement, il a commencé à regarder ce qu'il y a dans l'appartement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'il fait exactement, qu'est-ce qu'il dit, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de se peigner. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su après qu'il a regardé, ou qu'il l'observait, il lui a dit, « Lo kuntu a'lamu la ta'antuk » Si je savais que tu me regardais, je te l'aurais enfoncé dans ton œil. Ce peigne. Je te l'aurais enfoncé dans ton œil. « Innama ju'il al-isti'zan min azil basar » En réalité, la demande de permission d'entrer ou de regarder, c'est plutôt d'entrer, c'est pour... par rapport au regard, pour pas que le regard se pose sur ce qui n'est pas permis ou alors sur des affaires, bien sûr, qui ne te concernent pas. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est très, très, très négligée, délaissée de nos jours. Donc les gens laissent des fenêtres ouvertes ou la porte ouverte parce qu'ils nettoient ou ils balaient, hein, ou ils déménagent. Alors il y a des gens qui se permettent de commencer à regarder, de s'arrêter, de voir de loin, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qui se passe. C'est pas tes affaires. Toi, baisse ton regard et va-t'en et ne fais pas attention, bien sûr, à tout cela. Alors la question que certainement beaucoup de nos frères et sœurs doivent se poser, ces bienséances qu'on va citer maintenant, est-ce qu'elles concernent également l'époux par rapport à son épouse? Est-ce que l'époux lui aussi, il doit demander l'autorisation d'entrée? Lui aussi doit avoir son visa d'entrée chez l'Abdoukhoul? Ou alors, vu que c'est lui le maître à bord, c'est le timonier, il entre quand il veut et il sort quand il veut. Ici, bien sûr, les gens de science, Ahlul Ilm, sont d'accord que il n'est pas obligé, là je dois aller, il n'est pas obligé pour lui, concernant son épouse, surtout s'il sait que dans sa demeure il n'y a que son épouse, il n'est pas obligé de demander l'autorisation pour entrer, il peut entrer directement. Mais, Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, met quand même une remarque à ce niveau-là. Il dit, Al-Aula, dit ce qui est préférable, c'est que l'homme demande sa'din à la zawjati, qu'il demande l'autorisation avant d'entrer auprès de son épouse. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'il va entrer et il va l'avoir dans un état qu'elle, elle ne veut pas. Par pudeur. Voyez-vous, il se peut qu'il va l'avoir dans un état qu'elle, elle ne voudrait pas que lui la voie dans cet état-là par question de pudeur. Bab al-haya. Donc ils disent qu'il est préférable que lui aussi demande l'autorisation, bien sûr, avant d'entrer en sonnant par exemple ou en frappant la porte. Chacun donc suivant sa méthode. Alors lorsque tu entres, cher frère, auprès de ta famille, la première chose que tu fais, est salam. Tu dis assalamu alaikum, la première chose. Voyez-vous, tu n'entres pas comme un bulldozer ou comme une grue, mais tu entres bil adab, bil sakina, avec bien sûr calme, avec quiétude, itminan. Et la première chose que tu dis à ta famille, c'est bien sûr assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Peut-être qu'il a rapporté par Tirmidhi, c'est la recommandation qu'il a fait à Anas. Le compagnon Anas ibn Malik, il a fait à Bunay, la d'autre à l'ahlik, hatta tu sallim alayhim, n'entre pas auprès, ou il a d'achat à l'ahlik, fa sallim alayhim. Fa yakounu salamuka barakatan alayk wa ala ahli baytik. Regardez, le prophète sallam dit à Anas, jeune homme, lorsque tu entres auprès de ta famille, eh bien, commence par dire assalamu alaykum, car le fait que tu dises assalamu alaykum, c'est une bénédiction baraka pour toi, ainsi que pour ta famille qui occupe bien sûr ta demeure. Et également, mes chers frères et sœurs, l'époux, s'il est en voyage, il ne doit pas entrer dans sa demeure la nuit. Sinon, son épouse va croire qu'il y a un brigand qui entre chez elle, hein, etc. Non. Ici, bien sûr, lorsque quelqu'un est en voyage ou en déplacement, il est bien sûr préférable qu'il n'entre pas la nuit. Et quand on dit la nuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit, pas au début de la nuit. Parce que tu peux effrayer l'épouse pour deux raisons. La première raison, c'est que tu peux l'effrayer. Tiens, qui entre à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe? La deuxième raison, c'est qu'il se peut qu'elle, elle n'est pas dans un état présentable. Alors, elle n'est pas bien peignée, ou alors elle n'est pas bien habillée. Bref, elle n'est pas présentable au sens large du mot. Ce qui fait que l'époux, peut-être qu'il aura un petit, une sorte de répugnance ou un rejet par rapport à elle. Il a l'habitude de la voir, comme on dit, princesse charmante, et du coup... Hein? Je ne m'avance pas, sinon les hommes feront un procès après. Donc, à ce niveau, le prophète, dans un hadith rapporté par le Bukhari, dit: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترقن أهله ليلا. Il dit: si l'un d'entre vous s'absente pendant un certain temps, eh bien qu'il n'entre pas, bien sûr, la nuit auprès de sa famille. Pour les deux raisons qu'on a citées, bien sûr. La première raison, c'est qu'il se peut qu'on va l'effrayer, elle va avoir peur, c'est quelqu'un qui entre à cette heure-ci, au milieu de la nuit bien sûr, ou alors tout simplement parce que la femme n'est pas dans un état présentable, et donc ça peut bien sûr provoquer quelques frictions à ce niveau. Très bien. Alors mes chers frères et sœurs, maintenant passons à un point suivant, qui est bien sûr des erreurs qui se passent dans la visite. Certaines erreurs qui se passent durant la visite. Avant tout, vous devez savoir que visiter les frères, ou visiter les sœurs, pour les sœurs, c'est quelque chose de très bien, c'est un très bien fait, et les personnes sont récompensées, surtout si la visite est lillah. Si la visite est faite pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour des intérêts quelconques, mais liwajhillah. Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on visite notre frère ou la sœur visite sa sœur. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, il relate qu'un homme est parti visiter un frère à lui dans un autre village. Le prophète, Allah lui a envoyé un ange sur son chemin. Un ange qui a pris la forme d'un être humain. Alors il lui a dit: où vas-tu? Il a dit: azuru akhalli fil qarya. Je pars visiter un frère à moi qui est dans ce village, d'à côté. Il lui dit: halaka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi. As-tu un service quelconque à lui rendre qui te fait, donc qui te motive à aller le voir? Il répond là: innama uhibbu fillah. Donc je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui me pousse à aller le rendre visite. Alors il dit: fa'lam anni rasulullah ilayk, anna Allah yuhibbuk kama ahbabta. Sache que je suis un envoyé d'Allah auprès de toi, et sache qu'Allah t'aime tout comme toi tu as aimé cette personne. Donc on voit ici que visiter, donc les personnes, que ces personnes soient liées à nos familles ou non, visiter nos frères et sœurs, donc il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérites, mais malheureusement il y a des erreurs qui se produisent durant ces visites. La première erreur qui se produit, c'est qu'on ne tient pas compte du temps de la personne à qui on rend visite. On vient à n'importe quel moment, le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, bref, elle rejoue l'attaque et on est devant sa porte. Comme on dit, on a un coup de clin d'œil ou ses yeux, ils sont déjà tous devant sa porte en train de l'attendre.
Donc, عدم مراعاة وقت المزور. Donc, on ne tient pas compte du temps de la personne à qui on rend visite. Ça, c'est important. Et ça, mes frères et sœurs, malheureusement, c'est triste de voir que de nos jours, c'est un comportement très répandu. Il y a des gens qui débarquent comme ça, sans t'appeler, sans te prévenir, ni rien. Et j'ai lu une fois dans une revue destinée aux femmes, une revue faite pour les sœurs, une revue en arabe, où qui s'appelle, la revue s'appelait Eshaqaq, donc pour les sœurs musulmanes. Alors, il relatait l'histoire, dans une revue, il relatait l'histoire d'une sœur qui était assez organisée. Comment elle est organisée, cette sœur? Elle avait un agenda avec elle, dans son sac à main. Alors, certaines sœurs lui ont dit, tiens, ben, on va faire ceci, telle activité ou telle activité, ce serait bien que tu sois avec nous. Elle a dit, attendez. Elle a sorti son agenda, elle a commencé à regarder. Elle a fait, non, ici je pourrais pas, ce jour-là je peux pas, ce jour-là je peux, mais à condition que ce soit entre telle heure et telle heure. Depuis qu'elle a fait ça, beaucoup de ces sœurs-là qui étaient autour d'elle, eh bien, ils ne l'appréciaient plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est organisée, elle veille à son temps, et le temps, comme on dit, elle voit tout qu'elle safe, il l'aime tartaq, le temps est comme un sabre. Si tu ne le tranches pas, lui, il te tranchera. Alors, parce que cette sœur était organisée en son temps, elle avait un planning. Alors, ces autres sœurs l'ont très mal pris et ont considéré cela comme étant une sorte d'orgueil. Donc, ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de rendre visite à ton frère ou à ta sœur, de préférence, appelle-le ou appelle-la. Voilà, quel est le temps qui t'arrange? Comment puis-je te rendre visite? Qu'est-ce qui t'arrange, etc. C'est l'adat, c'est le comportement qu'on doit avoir. Bien sûr, ça, c'est mis à part les cas d'extrême urgence, c'est un truc très urgent. Ça, c'est autre chose. Et comme le disent les savants, ils disent « Ad-daroura tutuqaddaru biqadariha ». Donc, la daroura, ce qu'on appelle la nécessité urgente, se mesure d'après, bien sûr, son degré. On ne va pas la dépasser. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur aussi qui se passe dans les visites, on n'observe pas l'heure du rendez-vous. Par exemple, le frère se dit « Passe chez moi à 4 heures ». Alors, monsieur à son aise, cours Raoul, il débarque à 6 heures. 2 heures plus tard, sans prévenir, bon, il peut arriver que quelqu'un, comme on dit, a un contre-temps, il était bloqué sur la route, sa voiture tombe en panne, il était coincé par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là, c'est la moindre des choses, c'est que tu appelles la personne en question, tu dis, voilà, écoute, je risque de venir en retard. Est-ce qu'on garde le rendez-vous ou alors on le reporte à l'autre moment? C'est ça l'adab, mes chers frères et sœurs. C'est comme ça que doit être le comportement. Pas que tu débarques à 6 heures, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'est passé, et alors tu l'as fait passer en temps pendant 2 heures alors qu'il aurait pu l'utiliser à autre chose, et ce fait que tu as piétiné sur son emploi du temps, donc asseyez-vous, faire attention. Également parmi les erreurs qui se passent, ça fait la vérité, parmi les erreurs qui se passent aussi, c'est de rester trop longtemps chez la personne. Des fois, il ne manque plus que le sac à couchage. Donc, il est là installé, il n'y a pas de problème. Donc, le temps passe, les heures passent. Et subhanallah, je me souviens d'un frère qui me racontait, il a reçu la visite d'un frère. Il a dit, ce frère qui m'a rendu visite, il a battu le record. Il est resté 6 heures chez moi. 6 heures, il a dit à chaque fois, je regarde ma montre exprès. Pour lui faire comprendre qu'il est temps de mettre fin à la rencontre, à la visite, et qu'il serait temps qu'il parte, quoi, tout simplement, qu'il quitte un peu les lieux, qu'il débarrasse le plancher pour qu'il puisse s'occuper de ses affaires. Ben, il ne voulait pas comprendre. Le frère, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû trouver le prétexte. C'est triste d'en arriver là. Le frère a dû trouver le prétexte qu'il devait faire des courses, et c'est comme ça qu'il l'a mis à la porte. Le soleil ne partait pas, il était toujours là. Donc ça, c'est une erreur que font beaucoup, bien sûr, lorsque ils viennent, ils dérangent la personne, donc en restant longtemps chez elle, et ça, bien sûr, ça pousse quelquefois la personne qui n'était pas prête à lui préparer à manger, etc., alors qu'il se peut que ce n'était pas prévu. Et ça, bien sûr, ça c'est une chose qu'il faut, bien sûr, éviter. Et un savant, justement, qui s'appelle un savant du hadith, qui s'appelle Yahya ibn Sa'id al-Qattan, un disciple, un élève, est venu le voir lui poser des questions sur des hadiths. Alors, on dit que Tawala alayh, il lui a pris trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, ce savant, l'adab, le bon comportement qu'il a eu, il a fait? Ma araka illa khair minni, je vois que tu es meilleur que moi. Lakinnaka saqim, tu es quelqu'un de lourd. Tu es trop lourd pour moi. Pour lui faire comprendre comme quoi il a pu exagérer au niveau du temps. Et ça, bien sûr, c'est une erreur que font beaucoup de gens, de rester trop longtemps sur la personne. Sauf, bien sûr, si la personne qui t'a invité te coince, dit non, il faut que tu restes avec moi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la preuve de mahabba. Donc, d'amour, c'est autre chose. Mais sinon, si tu es là bien sûr, fais en sorte que ta visite soit courte et courtoise. Courte et courtoise. Ça c'est très important. Donc, chers frères et sœurs. Parmi les erreurs aussi, c'est se présenter pour manger sans rendez-vous. Par exemple, il sait que, on image un peu, il sait qu'Abdullah, par exemple, chez lui, c'est à, donc, le repas de midi, chez lui, c'est à 2 heures. Donc, pratiquement tous les jours à 2 heures, c'est sur là qu'il mange. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il débarque. 2h-5. 2h-5, il arrive. Je viens te visiter, Fillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et hop, il est là. Il mange avec lui, etc. Il revient, la prochaine fois, il fait la même chose. 2h-5, 2h-10, il est là. Justement, on relate une anecdote à ce sujet, mes chers frères. On relate que dans une mosquée, il y avait un homme qui apportait la nourriture pour l'imam et quelques gens de la Jama'a, donc de l'assemblée de la mosquée. Et un intrus, qui ne prie jamais avec eux, il vient toujours à l'heure pour manger. Il n'a rien à voir avec la mosquée. Il vient toujours à l'heure. Alors l'imam a commencé à se sentir un peu dérangé. Il ne prie même pas avec nous. On ne l'a jamais vu dans la mosquée. Mais subhanallah, dès qu'il y a un repas qui arrive, il est le premier à venir et à s'asseoir à manger avec nous. Il dit, celui-là, il faut que je fasse un coup afin qu'il ne l'oublie pas. La prochaine fois qu'il s'est passé, on leur a apporté des crêpes. Raghaif. Et l'imam avait donc son sadjé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu la porte s'ouvrir. Et ça, c'est lui. Il a pris les crêpes, il les a mis sur son bonnet, et il a mis le djellab, donc le capuchon djellab au-dessus. Donc il n'y a plus rien à rassurer, c'était physique. Et c'est là que l'homme est entré, quand il a vu, bon, pour un peu masquer, il a vu que la salle était vide, il était pris de la case, soi-disant. De la case, puis il est revenu, il s'est assis. Et voilà, c'est vide. Alors il s'est dit, peut-être qu'ils vont emporter la nourriture, donc j'attends. Qu'est-ce qu'il veut à un moment donné? Il voit de l'huile couler. Il voit de l'huile couler sur le visage de l'imam. Alors il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. C'est en fait bien sûr l'huile des crêpes même, voyez-vous, qui coulait sur le... Alors il a fait, imam, qu'est-ce que t'as? T'es malade, t'es souffrant. Il a dit, je suis très souffrant à cause de toi. Sauf. Donc, au niveau, bien sûr, de ça, on ne se présente pas pour un repas sans rendez-vous. Voyez-vous? Et le verset suivant, dans la sourate les Coalisés, verset 53, Allah Azza wa Jal nous dit ce qui suit. Il dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tadkhulu buyut an-nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayri nadhirina ilah. » Yo, vous les croyants, n'entrez pas dans les demeures. N'entrez pas dans les demeures du prophète sallam sans son autorisation, et sauf si on vous y invite. Voyez-vous? Walakin idha du'itum fadkhulu. Et si on vous invite, entrez. Fa'idha ta'intum fantashiru wa la musta'nisina li hadith. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. Donc ici maintenant, on vous invite à manger, ben vous mangez, ensuite vous partez. Ne restez pas plus à discuter, car ceci dérange le prophète صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم se sent gêné de vous le dire, mais Allah bien sûr ne se gêne pas par rapport à la vérité. Allah لا يستحي من الحق. À partir de ces versets dans sourate la Coalisée verset 53, nous tirons 4 enseignements. Arba Ahkam. 4 enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'on ne peut entrer dans les demeures sans autorisation. Ça, on a compris. Deuxième enseignement, on ne peut entrer pour un repas si on n'y est pas invité. Voyez-vous? Troisième enseignement, on ne rentre à la demeure lorsqu'on y est invité qu'au moment où la personne qui invite nous l'a demandé. Par exemple, un tel, on lui a dit, viens, je t'invite chez moi à 2 heures. Ben, tu viens à 2 heures, viens pas à 3 heures parce que c'est trop tard, et viens pas avant. Et ça, les savants ont expliqué que si la personne vient avant, eh bien, elle risque de déranger. Donc, le propriétaire qui est en train de préparer un peu à manger, etc., de faire des courses, il risque d'être un peu dérangé. Il faut observer le moment où on te demande de venir. Et c'est ce qu'indique le verset. Voilà qui est la tout va trop lourd. Mais si on vous invite à venir manger un repas, eh bien entrez. Et ensuite, c'est la quatrième leçon, le quatrième enseignement. Et si vous avez mangé le repas, eh bien partez. Donc ne restez pas à tarder 3 heures encore en plus. Vous devez vous en aller et c'est terminé, Inch'Allah. Ça, c'est les 4 enseignements, bien sûr, mes chers frères et sœurs, que l'on tire, bien sûr, de cela. Également, parmi les erreurs que font les gens lors des visites, c'est d'amener avec soi quelqu'un qui n'est pas invité. Voyez-vous ? Donc, il te dit, par exemple, voilà, Abdullah, je t'invite chez moi, tu viens chez moi à 6 heures, tu viens manger avec moi. Qu'est-ce qu'il fait à Abdullah ? Sans aucun scrupule, il débarque avec Mukhtar et Mohamed, avec 2 autres. Ici, de toute façon, Abdullah, c'est un gars généreux, Karim, ses portes sont toujours ouvertes, donc si jamais 2 personnes, ben, un repas d'une personne ou deux ou de 3 personnes, c'est la même chose. Ça se fait pas, mes chers frères et sœurs. Et ça, c'est. Il y a des frères qui font ça, aussi des sœurs qui font ça. Quand tu es invité tout seul, tu viens tout seul. Tu n'amènes pas avec ton caravane, tu viens tout seul. Voyez-vous ? Le point suivant, on arrivera à la fin, Inch'Allah. Le point suivant, ça concerne les erreurs que les gens font lorsqu'ils demandent l'autorisation d'entrer chez quelqu'un. La première erreur, c'est d'élever sa voix, de crier dans la rue. Les gens qui hurlent dans la rue en appelant par le prénom et dérangent tout le quartier. Ça ne se fait pas. Et il est triste de le rappeler, il est triste de nouveau de voir ici que ce sont nos frères et sœurs qui le font malheureusement, de nouveau. Deuxième erreur que font les gens lorsqu'ils viennent donc frapper ou sonner à la porte de quelqu'un pour demander permission, c'est ce qu'on appelle bien sûr donc le fait de klaxonner avec les véhicules, les voitures. Donc klaxonner en plein milieu de la nuit ou bien en plein milieu de journée lorsque les gens se reposent ou sont occupés, c'est aussi une sorte de fainéantise qu'ont certaines personnes. Cher frère, chère sœur, descends ta voiture, va sonner, ne dérange pas tout le quartier. Donc pour ça, parce que les gens sont égoïstes, ils ne regardent pas les gens, ils regardent que sa personne. Voyez-vous ? Troisième également erreur qui se passe, c'est de trop sonner à la sonnette. Donc il garde son doigt sur la sonnette et on ne sait pas ce qu'il attend. Également, parmi les erreurs, rester devant la porte de la personne. Rester devant sa porte en se disant qu'il va me répondre. Sa voiture est là, j'attends qu'il sorte. Ça, tu ne peux pas. Il ne t'a pas donné de réponse, peut-être qu'il se repose, peut-être qu'il est occupé, tu dois partir, ne pas rester sur place. Également, parmi les erreurs, la cinquième, parmi les erreurs que font les gens, c'est le mensonge, mentir. C'est-à-dire, quelqu'un vient frapper ou sonner à la porte, alors le père ou la mère, ou le frère ou la sœur, peu importe, dit à son proche, dit, va lui dire que je ne suis pas là. Alors que lui, il est là. Tout simplement, cher frère et soeur, il est de ton droit de ne pas répondre, c'est ton droit. Mais ne mens pas. Et justement, à ce sujet, il y a un fait divers réel qui s'est passé. C'est que, il y a un frère qui habite dans un immeuble et il a vu donc la petite fille de son voisin. Alors il a dit, elle avait 10 ans, il lui a fait, écoute, monte chez ton père, dis-lui que j'ai besoin de le voir. Voir si ton père est là et dis-lui que j'ai besoin de le voir. Alors la fille, puisqu'elle est petite, nia, elle ne connaît pas grand-chose, elle redescend et elle dit à l'homme, mon papa t'a dit qu'il n'est pas là. Savez-vous ? Ça, bien sûr, mentir, ça ne se fait pas. Donc, tout simplement, tu peux t'abstenir de répondre et c'est bien plus préférable, Inch'Allah. Alors, maintenant, on arrive au dernier point, Inch'Allah, de ce cours. Quelles sont les demeures où il est permis d'entrer sans demander la permission ? Il y a des endroits où on peut entrer sans demander la permission. Le premier endroit, ce sont les maisons qui ne sont pas habitées. Al-Buyut, Al-Ghair Meskouna. Pas Meskouna, c'est-à-dire hanté, hein, ça ne veut pas dire ça. Donc les maisons qui ne sont pas habitées. Que ce soit une mosquée ou que ce soit même une maison vide, si tu as bien sûr quelque chose à chercher là-bas ou à prendre ou je ne sais quoi, tu peux entrer bien sûr, c'est normal, il n'y a personne dedans, personne ne va demander l'autorisation, c'est logique. Et à ce niveau, nous avons bien sûr un verset. Dans Surat An-Nur, verset 29, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Laysa alaykum junah an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum. Laysa alaykum junah an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum. Donc il n'y a pas de mal à ce que vous entriez dans des demeures qui ne sont pas habitées s'il y a certains biens à vous dedans, que vous allez récupérer. La deuxième type de lieu ou d'endroit où on peut entrer sans demander également la permission, ce sont les demeures où il y a un danger à l'intérieur. Incendie. Pas parce qu'il y a un incendie dans la maison, il faut dire attends, je sonne, pour voir si je peux entrer ou non. Parce qu'il y a un incendie, il faut que tu interviennes, il faut que tu casses la porte. Ou alors il y a quelqu'un qui est gravement malade, qui est sur le point de mourir, tu vas me dire attends, je peux pas, le prophète a dit que je peux pas rentrer, je dois attendre. Non, tu dois entrer ici. C'est une question de vie, tu dois sauver une vie. Et de sauver des biens aussi. Donc, lorsqu'il y a un danger dans une demeure quelconque, eh bien, si tu peux entrer, bien sûr, sans aucun problème. Le troisième endroit où il est permis aussi d'entrer sans autorisation, c'est les endroits où il y a ce qu'on appelle El Munkar. Turpitude. Hein? Par exemple, dans un endroit où, par exemple, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de se disputer, qu'il va y avoir un crime qui va être commis, ou alors vente de drogue ou autre, eh bien, ici, il est permis, bien sûr, aux gens compétents, bien sûr, la police, ou bien des gens de ce qu'on appelle Al-Hishba, en arabe, Al-Hishba, c'est cette sorte de police religieuse qui a pour rôle de veiller à la droiture des mœurs. Eh bien, cette police-là a le droit d'entrer dans ces demeures sans demander l'autorisation parce qu'il y a un moule quelqu'un en train de s'organiser ou de se faire. Et bien sûr, ils doivent intervenir pour mettre fin à tout cela, à condition, bien sûr, qu'ils aient des preuves évidentes. Pas avec un doute. Avec des preuves, bien sûr, évidentes. Ça, bien sûr, mes chers frères et sœurs, c'était donc le cours d'aujourd'hui concernant les bienséances. Adab al-Istidhan est donc. C'est un enseignement que nous avons besoin, énormément besoin, et sur lequel nous devons nous éduquer, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, je ne sais pas si mes frères et sœurs sur ce sujet ont des questions. Na, oui. Comment? Oui. Non, ça, il ne faut pas faire. Même si tu reconnais, il ne faut pas faire. Il faut dire, c'est un tel. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas du tout apprécié ça de... Donc, du compagnon Jabir ibn Abdillah, n'a pas du tout apprécié. Donc, il faut absolument, bien sûr... Ici... Ici, une sœur dit ici dans la question, dans le Sourat de la Lumière, il y a un verset où il est écrit « Rentre dans les demeures de vos amis. » Explique un peu. En tout cas, ce verset, cette forme, je ne le connais pas. Je ne sais pas exactement la tournure du verset. Dans le Sourat al-Nour, le verset le plus connu, c'est le verset qu'on a cité, donc maintenant, au début. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Et aussi le verset donc concernant les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les demeures, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est également, mais écrit comme tel, je ne connais pas. Wallahu a'lam. Naam, autre question. Donc le frère dit ici, si maintenant quelqu'un nous donne l'autorisation d'entrer chez lui quand lui il n'est pas là, il dit tu peux entrer si tu as besoin de quelque chose, tu entres. Tout à fait, mais c'est une condition. C'est que lorsque tu entres, tu ne prends que ce que tu as besoin, conformément à ton accord avec la personne qui t'a permis. Pas que tu entres, que tu commences à chercher dans les armoires, qu'est-ce qu'il y a dans les armoires, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, hein, dans la cuisinière, non. Il t'a dit voilà, tu peux entrer dans tel endroit, il y a tes livres ou tes objets. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et pas plus. Parce que des fois, Shaitan, il a la curiosité dans l'esprit de certaines personnes. Alors, ils ont dit, tiens, il est par là, mais j'en profite. Attends, je vois qu'est-ce qu'il y a comme compte ici, qu'est-ce qu'il y a comme facture. Tiens, la télévision, combien elle a acheté, l'armoire, combien. Sa garde-robe, comment, est-ce qu'elle est remplie ou non, ça ne te regarde pas. Ça, juste ce qui te concerne, et puis tu sors et pas plus. Y a-t-il d'autres questions concernant ce sujet? Chers frères et sœurs, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer, Inch'Allah. Pas de questions? Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici, Inch'Allah. Non. Oui. Attends, j'ai pas suivi. Quelqu'un est parti en voyage. Il a laissé les clés à quelqu'un. Oui. Ça y est. Ça, il peut pas faire, ça. Ça, il peut pas faire, ça. Donc, il a donné les clés à une autre personne, et cette autre personne est entrée dans l'appartement. Ça, c'est pas permis. Et ça, l'erreur vient de la première personne. Donc, le frère dit ici, quelqu'un part en voyage, et laisse les clés. On va imaginer, disons, Abdullah part en voyage, et laisse les clés à Abdelaziz. Alors, Abdelaziz, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a pris ce qu'il avait besoin de ses affaires. Et il se permet de remettre les clés à Mohamed, par exemple, ou à Khalid, qui est un proche, par exemple, de celui qui est absent. Ça, il ne peut pas faire. Tu remets, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. » Allah vous ordonne de remettre l'amanat, donc les dépôts, les choses de confiance, de les remettre aux personnes à qui elles appartiennent. Donc, pas question de la remettre à une personne tierce, non. Et ça arrive souvent dans les objets prêtés. Ça arrive souvent dans les objets prêtés. Donc, par exemple, un tel prête un livre, par exemple, à un autre, et bien l'autre, au lieu de lui remettre le livre, il le passe à quelqu'un, il lui dit, voilà, va lui remettre. Et l'autre, après, perd le livre ou le jette dans sa maison, on ne sait plus où il est, et ainsi, l'amène à perdu. Et ça, les gens, aujourd'hui, malheureusement, sont très, très insouciants, très négligents quant à ce qu'on appelle l'amène. L'amana, c'est une chose très importante qu'il faut préserver, mes chers frères et sœurs. Si on te donne une chose, tu la remets comme elle est. Pas à moitié, ni le quart, mais entièrement, comme tu l'as reçue. Voyez-vous? Et donc ici, c'est une erreur. Ces personnes qui remettent les clés à une autre personne, autre que celle à qui elles sont dues, ça, c'est pas permis. Conformément à ce verset. Inch'Allah. S'il n'y a plus de questions, non. Oui. D'entrer dans l'appartement. Non, elle ne peut pas, non. Sauf si... Non, pas du tout. Donc ici, le frère dit, imaginons qu'il y a une maison où les parents habitent. Et que les garçons, par exemple, se sont mariés, ils ont leurs appartements à l'intérieur de la maison. Chacun a pris un étage avec un appartement. Alors, il se pose la question ici, est-ce que la mère peut se permettre d'entrer dans ces appartements-là, en se disant, de toute façon, je suis chez moi, c'est ma maison? Non, pas du tout. Parce qu'ici, ces appartements sont devenus un lieu privé. Donc, haramul amin, c'est un lieu privé de sécurité pour ce couple et cette famille. Donc, elle ne peut pas se permettre d'entrer, donc, dans cet endroit, sauf autorisation, donc, de son fils. Ou de sa fille, bien sûr. Là. Comment? Donc si... attends. Donc si quelqu'un qui déménage de chez ses parents, c'est ça. Ensuite? Oui? Et tu as la clé, c'est ça? Sincèrement, je dirais, Wallahu a'lam, en tout cas, c'est un état évité. Parce que tu n'es plus chez toi. Tu n'es plus chez toi, et le meilleur, bien sûr, c'est de prévenir quand même, d'aviser tes parents que tu vas venir, que tu vas entrer, etc. Parce que Shaitan, il a beaucoup de chemins. Beaucoup de portes par lesquelles il attaque ses serviteurs. Et parmi ces portes, même ça, Shaitan peut facilement semer la discorde entre un fils ou une fille et ses parents, facilement. Oui, il y a de l'argent qui a disparu, il y a des bijoux qui ont disparu, c'est toi. Tu vois? Et ça, il ne faut pas, bien sûr. Allahu a'lam. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter ici, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en profite avant de vous laisser partir, inshallah. Juste, c'est une petite nasiha, si vous l'acceptez de moi, inshallah, un petit conseil. C'est un point que j'ai oublié par rapport au cours. Les sonnettes des maisons, les demeures, il faut que ces sonnettes soient les plus simples possibles. Il y a deux types de sonnettes qui sont interdites. Il y a sonnette avec musique, et il y a sonnette, bien sûr, avec son de cloche.
Parce que justement, comment dire, il est interdit bien sûr de ressembler aux gens du livre par, donc, par cela. Et j'en profite de faire une sorte d'extrapolation ou de déduction. Les GSM, mes chers frères et sœurs. Les GSM, c'est la même chose. Chaque frère et sœur, pieux, intègre, peut faire en sorte que son GSM, il ne faut pas qu'il ait sa sonorisation dans son GSM, il ne faut pas qu'il y ait une musique dedans. Il faut qu'il choisisse le son le plus simple, le plus ordinaire, le plus banal. Parce que le but de la sonnerie, c'est quoi? Le but de la sonnerie, c'est tout simplement que tu puisses entendre quelqu'un qui t'appelle, donc via donc cet appareil. Donc ici, c'est un conseil, malheureusement, on voit beaucoup de nos frères et sœurs qui ont des GSM, et dès que ça sonne, c'est une musique incroyable, impressionnante, et quelquefois c'est triste de voir la sœur en hijab, le frère machin la barbue, etc. Tu te poses des questions. Voilà, tout à fait, il ne manque plus que le micro, et hop, on est parti. Donc, mes chers frères et sœurs, au niveau GSM, évitez bien sûr, changez votre sonorisation, c'est bien plus meilleur, Inch'Allah. Et c'est meilleur pour votre intégrité religieuse et morale. Wallahu ta'ala a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.